Voilà. Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est bien de vous revoir. Comme j'ai trop à dire, pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom est Rodrigo et je viens de terminer mes études bibliques en Angleterre. Et voilà, je tenais vraiment à vous saluer tous et à vous remercier pour votre soutien, pour vos prières. Et voilà, c'était un temps des fois difficile pour moi, mais c'était bien. J'ai pu voir les fruits déjà et j'en attends plus encore. Et ça m'a vraiment donné. Ça m'a rapporté plus près du Seigneur ce temps là-bas et donné envie de continuer. Et ça, c'est vraiment la plus grande richesse qu'on peut avoir.
Donc, merci.
Merci. J'ai aussi prié pour vous. Donc voilà, merci. Mais je tenais à vous saluer tous, à vous remercier. Mais passons la parole maintenant. Et pour cela, on va ouvrir ce matin, s'il vous plaît, 1 Roi, chapitre 3. Dans 1 Roi, chapitre 3, nous trouvons le début de l'histoire de Salomon. Et donc aujourd'hui, on va se pencher un peu sur sa vie, ce qu'il a pu nous apporter, et surtout sur la sagesse dont il est, pour laquelle il était renommé. Et donc dans le chapitre 3 de 1 Roi, nous avons Salomon qui va marier la fille du Pharaon. Il offre des sacrifices au Seigneur, à son Dieu. Et dans un songe, c'est Dieu qui vient lui parler et qui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Et donc nous lisons la réponse de Salomon à partir du verset 7. « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit : « Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Donc voici ce que Salomon a demandé à Dieu quand il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Simplement la sagesse, un cœur intelligent pour discerner le bien et le mal. Et ça, c'est vraiment en fait l'essence de la sagesse, c'est de discerner la vérité, de pouvoir voir ce qui est vrai, ce qui est la réalité dans chaque situation. Et juste dans les lignes à suivre, nous avons le premier exemple d'un jugement sage de Salomon, où il y a deux femmes, deux mères qui venaient d'accoucher, qui viennent devant lui, apportant un bébé. Et les deux clamaient que le bébé leur appartenait. Les deux avaient accouché et l'enfant de l'une était mort pendant la nuit. Et donc elles viennent devant Salomon et l'une dit « C'est mon bébé » et l'autre dit « Non, c'est le mien. Le tien, il est mort pendant la nuit. Tu t'es levé et tu as échangé nos bébés. » Donc c'est à Salomon de découvrir à qui appartient maintenant cet enfant. Et donc il va demander qu'on lui apporte une épée. Il dit qu'on tranche l'enfant en deux et qu'on donne une moitié à chaque mère. Bon. Donc l'une était très d'accord avec cela. Elle dit « Bon, il ne sera ni à moi ni à toi, on va se le partager. » Mais l'autre, elle dit « Non, je préfère le laisser à l'autre femme, mais qu'il vit. » Et donc Salomon, il va discerner « Ok, Donnez-lui l'enfant et ne lui faites pas de mal, car c'est elle, la vraie mère. Et à partir de ce moment-là, on voit que Salomon, il va être renommé pour sa sagesse et pour ses jugements. Parce qu'il a pu discerner la réalité dans cette situation qui était un peu difficile. Et si on voit réellement, il agit selon la vérité, selon l'intelligence et le discernement que Dieu vient de lui donner. Ce n'est pas par lui-même qu'il a discerné ces choses, c'est Dieu qui lui a donné cette capacité. Et en agissant avec sagesse, d'après la vérité, d'après les principes de Dieu, c'est qu'il agit en fait avec bonté, avec amour et justice envers les autres. Rappelons-nous pourquoi Dieu a accordé cette demande à Salomon. Ce n'est pas seulement pour lui-même qu'il a fait ces choses. Et or, c'est vrai que la sagesse, elle nous apporte d'abord à nous-mêmes du bien, puisque ça nous édifie et ça nous aide à correctement agir dans tous les jours. Mais aussi et surtout, ça fait du bien aux autres. Parce que ça a un impact sur ce que nous faisons et sur ce que les personnes directement autour de nous vont vivre. Surtout, le plus de responsabilité qu'on a comme un roi, le plus cet effet, cela aura effet sur les autres. Et donc on voit que c'est pas simplement quelque chose de théorique, de « bon, je comprends cela et c'est la vérité, c'est fini ». Mais c'est d'abord de le reconnaître et d'agir en fonction de cela, d'obéir à ce qu'on a compris dans cette situation et de vouloir faire le bien aux autres. Et c'est ça ce qui a plu à Dieu en premier rang. Et donc on voit qu'à travers la vie de Salomon, c'était au début en tout cas, c'était une constante. Donc il venait, il prononçait beaucoup de jugements, de bons jugements, il était renommé pour cela. Il a écrit beaucoup de sagesse, de proverbes, de chansons. Mais cela ne l'a pas empêché de tomber néanmoins. On lit qu'au fur et à mesure de sa vie, il s'était un peu détourné de Dieu. Et pourquoi ? C'était parce que, exactement, il se détournait de cette sagesse que Dieu lui avait donnée. Or, la capacité de reconnaître ce qui était vrai, ce qui était bon, était toujours là. Elle était toujours à sa disposition. C'était son don, Dieu lui avait donné, et ne lui avait laissé. Mais c'était à lui de faire le bien ou le mal avec. C'était à lui de reconnaître, dans le jour à jour, les bonnes situations, et d'agir en forme. Et souvent il le faisait, il était renommé pour cela, il savait tout. La Bible dit qu'il attrayait les gens de pays lointains qui venaient le voir. Il savait tout sur les animaux, les plantes, les énigmes, l'économie, elle roulait bien, il gouvernait bien son pays, et c'était bien. Mais des fois, et de plus en plus, il échouait sur un plan moral dans sa propre vie. Et cela est un échec de sagesse d'abord envers soi-même et après envers les autres. On voit par exemple dans chapitre 11 qu'il s'est détourné de Dieu parce qu'il avait beaucoup de femmes. 1000 pour être exact. Bon, 700 épouses, 700 princesses et après 300 concubines en plus parce qu'apparemment les 700 femmes n'étaient pas assez. Mais cela était interdit par la loi de Dieu. Il le savait très bien. Mais il l'a fait quand même. Donc là, il n'agit pas par ignorance, mais on peut dire par méchanceté. Parce qu'il connaît la voix de Dieu. Il connaît, Dieu lui est apparu. Il sait très bien ce qui est vrai et ce qui n'est pas bon. Et il choisit quand même de le faire. Et ce n'est pas que des petites bêtises ou des petits faux pas. On lit dans le chapitre 11, dans le verset 7, qu'il faisait monter des autels et il introduisait des cultes à des dieux païens qui étaient, c'était de l'idolâtrie, c'était interdit, c'était des abominations devant l'Éternel. Quelque chose qui était vraiment c'est vraiment grave. Une des divinités dont il a introduit le culte, ce n'est pas confirmé s'il l'a fait, s'il l'a pas fait, mais au moins il a introduit le culte et il a bâti un autel aussi à un dieu qui s'appelait Moloch. Et le culte à ce dieu-là, à cette divinité, le sacrifice d'enfants faisait partie de ce culte-là. Donc, le fait de se laisser entraîner par ses convoitises, de ne pas obéir à la parole de Dieu, à la sagesse qu'il avait reçue, a non seulement des conséquences pour lui-même, mais aussi pour d'autres. Et à des autres, et les autres personnes qui vont souffrir les conséquences, surtout aussi des enfants innocents. Et donc on voit qu'on peut séparer l'intelligence qu'on a de la sagesse qui vient de Dieu. Et le choix toujours de choisir, est-ce qu'on obéit ou on n'obéit pas. Mais c'est toujours bien de demander à l'Éternel ce qui est bien. Prenons une fois le livre de Job, par exemple. Ici, nous pouvons vivre dans le chapitre 32. Dans le livre de Job, nous avons quatre personnages principaux, et après un cinquième. Le premier est Job, qui est un homme droit, comme ses trois amis. Donc ça fait... Et ça sera vraiment les quatre personnages principaux pendant l'histoire. C'est Job et ses trois amis. Ce sont quatre hommes sages, déjà plus âgés, riches comme on peut le comprendre, qui craignaient Dieu. Ils étaient des gens si renommés, qui étaient assis à la porte de la ville et qui jugeaient sur les affaires même des autres. Et Job étant un homme droit, quand même va souffrir de l'injustice. C'était, comme vous vous rappelez bien, le diable qui était venu vers Dieu, l'accusant que Job aimait Dieu que pour ses biens. Et donc, l'Éternel permet que le diable va tenter Job. Il va détruire ses biens, il va tuer sa famille, enlever tous ses biens, et même le rendre malade. Mais Job, il reste ferme. Et donc, pendant les 30 chapitres qui suivent, nous avons le dialogue entre Job qui est juste, qui est droit, et il affermit cela. Et il dit non, je n'ai pas péché, cela est injuste, Dieu me traite injustement, il va dire. Ses trois amis, qui étaient là pour le consoler, ils disent, mais Job, un instant, si tu souffres à la main d'un Dieu juste, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est parce que tu as péché, Job. Donc, ou tu es en train de mentir, ou tu as fait quelque chose de mal. Mais Job, il insiste qu'il était bien juste. Et Dieu lui-même, il affirme que Job, il était juste. Donc, nous avons une situation difficile, où même les hommes plus sages de l'époque avaient difficulté à discerner qu'est-ce qui est la réalité ici maintenant, et que devons-nous faire? Comment agir face à cela? Et donc, après ces longs discours, ces 30 chapitres, il y a Elihu, donc le cinquième, qui se lève et qui parle. Donc dans le chapitre 32, à partir du verset 6. Et Elihu, fils de Barakéel de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Donc ce qu'il a bien discerné ici, c'est que, et ça c'est aussi le piège, c'est pas forcément nos expériences, notre âge, ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous avons étudié, qui nous rend plus sages. Mais c'est simplement Dieu qui donne la sagesse si nous le lui demandons. Et si nous sommes prêts à nous baisser à cette sagesse-là. Ici, on voit un peu un conflit, on peut le voir un peu comme un conflit de génération. Et ça, c'est aussi surtout vénérant de nos jours où il y a une grande, un grand écart entre les générations. Et c'est difficile de travailler, de vivre les uns avec les autres. Parce que beaucoup de choses ont changé en peu de temps. Nous avons la technologie qui a fortement avancé. La société et les mœurs qui ont changé très rapidement. À l'époque, on avait par exemple des choses comme ceci c'est une femme, ceci c'est un homme. C'était très bien défini. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus ce qui est un homme, ce qui est une femme et qui doit faire quoi. Et ça a un grand impact sur ce qu'on vit tous les jours. Et comment les deux générations, ou les générations anciennes et les nouvelles, coexistent. Nous avons comment elles se voient les unes les autres. Quand beaucoup de choses ont changé, que ce soit les mœurs, l'économie, la culture, et en général les choses comment elles se font, les voies d'avant ne sont pas plus forcément valables pour aujourd'hui. Et donc c'est facile pour un jeune de regarder les plus anciens et de se dire qu'ils ne savent rien et qu'ils ont tort. Et un peu, on peut prendre un peu l'exemple d'Elihu qui dit « Je vous ai... Bon, maintenant c'est moi qui va parler » et qui va vous enseigner, c'est Dieu qui donne la sagesse. On peut prendre l'exemple de Timothée, quand Paul lui dit, ne te laisse pas démigrer à cause de ton âge. Dis ce que tu as à dire. Mais c'est important quand même d'avoir le respect et de ne pas oublier que les personnes plus âgées, c'est pas forcément qu'il y a quelque chose qu'ils ont loupé, une perspective qui n'est pas forcément 100% correcte, il n'y a pas beaucoup de sagesse et de vérité là-dedans. D'abord, Elihu, on se rappelle qu'il a écouté pendant 30 chapitres. Donc il s'est tu, il a écouté, c'est après qu'il a jugé, il a pu dire, d'accord, il y a peut-être encore cette perspective-là que vous n'avez pas vue. Rappelons-nous que ces gens-là, donc Job et ses amis, ils vivaient, ça fait 4000 ans. Donc ils n'avaient pas la Bible, les prophètes pour les guider. Il n'y avait même pas Moïse, la loi, il n'y avait rien. C'était eux et la sagesse que Dieu leur donnait. Eux et leur relation avec Dieu, d'après leur révélation. Et quand même, on voit qu'ils ont fait beaucoup de choses justes et beaucoup de choses qu'ils croyaient déjà étaient bonnes, étaient déjà des étapes que nous, on va bâtir dessus. Et des fois, on prend pour acquis, mais en fait, on ne se pose jamais pour dire en fait, un grand bout du travail a déjà été fait par d'autres avant moi. Déjà, ils croyaient en un seul Dieu, ce qui n'est pas évident à l'époque, donc on dit 4000 ans en arrière, c'est-à-dire que ces gens-là vivaient plus ou moins à l'époque d'Abraham, donc avant Israël, avant les prophètes et tout cela. Et ils croyaient en un seul Dieu déjà, pendant que beaucoup d'autres nations croyaient en plusieurs divinités, en plusieurs dieux. Et ça, où ça leur a été révélé, ils ont discerné eux-mêmes, ou ils ont hérité de leur père eux-mêmes. Ils croient aussi que ce Dieu-là, il est juste et bon, n'est-ce pas? Chose qui n'est pas évidente. Pour nous, c'est évident. Nous, on lit la Bible, oui, Dieu est bon, Dieu est amour. Ok. Mais eux, à l'époque, les dieux païens, ils n'étaient pas, c'était pas des bons dieux. C'est des dieux où on devrait souffrir, offrir des sacrifices. Des dieux qui, dans leur imagination, jouaient avec les hommes que pour s'amuser. Ou qui utilisaient les hommes seulement pour leur... Voilà, comme ça. Donc déjà, ils croyaient que Dieu était bon et qu'il était un. On voit au début que Job, il offre des sacrifices à Dieu. Donc déjà, la notion de sacrifice, de pardon. Eux, ils disent aussi, peut-être t'as péché Job, mais demande pardon à l'Éternel et il te pardonnera. Donc déjà cette notion de que c'est un seul Dieu, un Dieu de justice, un Dieu de bonté, de pardon, elle était là dans eux. Donc après, l'erreur qu'ils commettent, c'est de baser le jugement. Donc ils jugent la situation d'après leur sagesse à eux, d'après leur force et leur expérience. Généralement, tu fais quelque chose de bien et Dieu, il va te bénir. Tu fais quelque chose de mauvais et Dieu va te punir. Et ce n'est pas un concept qui est si faux que ça. Tu sèmes et après tu reçois ce que tu as semé. C'est même un principe du Nouveau Testament. Donc ils n'étaient pas, ils n'avaient pas tort dans ce sens-là. Mais ils avaient échoué à apporter la sagesse, à demander la sagesse à Dieu, pour voir au-delà de leur propre situation, de leur propre perspective qu'ils étaient habitués. Et donc c'est Éliou qui va dire, peut-être c'est vrai que généralement, Dieu il punit le méchant et il bénit le bon. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas directement. Dieu il peut aussi utiliser des mauvaises choses pour apporter le bien. Et c'est à nous de simplement se baisser à lui. De faire confiance que ses jugements, qu'on les comprenne ou pas, sont les bons. Et plus tard, c'est aussi l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui va écrire que toute chose termine au bien pour ceux qui croient. Donc, il ne faut pas trop mépriser ceux qui sont venus avant nous, mais il est important de se poser, de réfléchir sur la sagesse que Dieu donne, la perspective que Dieu donne, et pas simplement ce que nous, notre culture, nous sommes habitués à faire et comment à penser. Et ça, c'est facile, souvent en regardant en arrière, dans notre propre vie, dans l'histoire ou quoi que ce soit, c'est facile de regarder en arrière dans le passé et de dire « Ah, ça c'était un bon jugement, ça c'était une bonne chose, et ça c'était mauvais. » Mais le difficile et le vrai exercice, c'est de le faire dans le présent. C'est quand on se trouve face à une nouvelle situation, comme eux ici, quand on se trouve face à une catastrophe, ou quand simplement notre vie change des fois, comment agir et qu'est-ce que Dieu dit sur cela, qu'est-ce que Dieu il veut, comment Dieu est-ce qu'il veut-il que j'agisse. Ça peut être qu'on a plus, qu'on a moins d'argent. Ça se peut qu'on a plus ou qu'on a moins de temps. Que faire maintenant? Il y a une personne de plus ou de moins dans sa vie. Comment traiter cette nouvelle relation? Ou comment processer la perte ou quelqu'un qui s'en va, qui nous quitte, qui nous trahit. Et souvent, surtout quand c'est des situations plus délicates, plus fortes, comme ici dans le cas de Job, nous sommes tentés à juger par nos propres moyens. Il y a des émotions qui montent, n'est-ce pas? La rage, la tristesse, et on est très vite, ou même l'amour des fois, peut décevoir. Et on est trop vite capable de juger selon nos propres forces, selon nos propres modes de pensée, ou simplement le niveau de notre révélation, le niveau à quel nous nous comportons tous les jours, ce que nous sommes habitués. Et donc ici, on voit que la sagesse, c'est quelque chose que d'abord on demande à Dieu. C'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique, c'est pas simplement un truc théorique. Oui, que j'accepte pas, je vois comme ça. Mais il faut le mettre en pratique. Et troisièmement, que c'est une chose qui se met en pratique tous les jours. C'est pas simplement une fois qu'on doit prendre une grande décision, mais ce sont les petites choses qu'on fait tous les jours qu'on va être une personne sage ou folle. Et les grandes décisions, on pourra que les prendre de manière sage si on s'est entraîné dans les petites choses d'abord. Parce qu'il faut s'entraîner, il faut la demander à Dieu. C'est comme il est écrit dans le Nouveau Testament. Que Dieu nous éprouve par les petites choses, et si on est fidèle, il nous donne des plus grandes. Et donc c'est dans le quotidien et dans les choses banales d'abord qu'on commence. Et après, on progresse aux choses plus importantes. Et ça, on peut bien le voir dans les paroles de Jésus lui-même. Et donc on va lire un peu Matthieu 7. Parce que c'est pas suffisant de simplement regarder ce qui est écrit ou ce qui est vrai. Même si on arrive à discerner la réalité, même si on garde la loi, ou même comme Job et ses amis qui connaissaient la vérité et les principes de Dieu. Mais il y a une attitude derrière. C'est pas simplement quoi et discerner, mais aussi comment. Et que faire? Dans Matthieu 7, à partir du verset 24, nous avons cette parabole de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mets en pratique sera semblable à un homme prudent ou sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc ici nous avons de Jésus le contraste entre une personne sage et une personne folle. Notons que c'est pas bâtir une maison, c'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. Une maison, elle est bâtie de plusieurs, on la met brique par brique. Et c'est ces briques-là, c'est chaque décision, chaque jour, sage ou folle, qui va décider comment sera votre maison. Quel est le fondement? Est-ce que le fondement, ce sont mes propres pensées? Ce sont les pensées de ce siècle? Ce sont les pensées comment j'ai été, qui sont dans ma culture, comment j'ai été élevé? Est-ce que ce sont les pensées que Dieu nous donne, que Dieu nous révèle et que nous pouvons demander à Dieu? Remarquons qu'il dit dans 26, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. » Donc d'abord, il s'adresse à ceux qui le connaissent. D'abord, il s'adresse à ceux qui ont entendu ces paroles. Et donc ici, il dit qu'il est pire de connaître ces paroles et de ne pas les mettre en pratique que de ne pas les connaître. Et quand il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Bon, ces paroles, on peut le prendre comme toute parole de Jésus, tout enseignement qu'il nous donne. Parce que c'est lui qui est bien Dieu qui est devenu chair. C'est pas simplement les lois, les révélations qu'ils ont eues dans le passé, les Juifs. La loi de Moïse et l'ordre lévitique et tout cela. Mais c'est Jésus, c'est Dieu qui vient en tant qu'homme et qui nous montre comment faire. Et il nous dit simplement, suis-moi, à l'imiter. Mais ces paroles ici, qui dit, ce sont, il s'adresse quand il dit d'abord ces paroles, il voulait en fait dire le serment sur la montagne. Donc c'était son premier et son grand enseignement pour lequel il est bien connu. Et dans le serment sur la montagne, on trouve plein de sagesse, de manière de se comporter dans les choses simples du jour au jour. Nous avons, vous êtes le sel de la terre. Si vous perdez votre saveur, qui pourra vous la rendre ? Que vous êtes la lumière du monde. Nous avons le pardon. Priez et aimez vos ennemis, priez pour eux. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tournez la joue gauche. Ce n'est pas assez. Un péché, ce n'est pas simplement de tuer quelqu'un, il dit. Mais si vous avez la haine dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur. C'est des choses simples de tous les jours. Aimer ses ennemis. Nous avons comment prier, tout simplement. Nous avons là où sera ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Donc plein de choses qui sont utiles à nous pour tous les jours. Et des fois, quand j'ai la Bible, je me sens un peu bête. Et surtout quand on doit préparer un message ou quand on essaie d'étudier un peu plus, parce qu'on essaie de creuser les secrets de Dieu, les trucs profonds, les trucs compliqués. On essaie d'aller voir ce passage-là, ces mots-là dans le grec, dans l'hébreu et tout ça, et les commentaires et ainsi de suite. Mais après, à chaque fois, je me sens assez stupide parce que les choses les plus importantes, les plus grandes dans la vie, Dieu, dans sa sagesse, dans son humour et dans sa bonté, les a faites les choses les plus simples. Simples à comprendre et à portée de tout le monde. Si on revient un peu sur Salomon pour conclure. Au début de son règne, quand il suivait encore Dieu, il va écrire le livre des Proverbes. Plein de petites sagesses qu'on peut prendre comme ça, des phrases, pour s'enrichir chaque jour. Et il commence par la crainte de l'Éternel et le début de la sagesse. Craindre l'Éternel. À la fin de sa longue vie où il a tout vu et tout goûté, le bon comme le mal, il va écrire le livre de l'Ecclésiaste. Et à la fin du livre, à la fin de sa vie, la conclusion est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Et ses commandements, c'est tout simplement, oui, c'est la parole de Dieu, mais la parole, c'est Jésus. Et de le suivre, c'est de suivre tous les commandements. Or, on lit aussi dans Matthieu 7, encore une fois, les paroles de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Salomon a pu le dire très simplement. Jésus le dit très simplement. Aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et suis-moi tous les jours. C'est là où on trouvera la sagesse pour tous les jours, qu'on aura une bonne vie qui est bonne devant Dieu, qui plaît à Dieu, qui sera bonne pour nous et pour ceux autour de nous. Simplement de suivre Jésus et de lui demander la sagesse dans les petites choses de tous les jours. Soyez bénis. Amen.